Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Zimbabwe, il faut dépasser la période électorale et embrasser l'avenir, a affirmé ce lundi le président Emmerson Mnangagwa, dont l'élection est contestée par l'opposition qui a saisi la Cour constitutionnelle vendredi dernier. Dans un discours à l'occasion de la journée des héros de l'indépendance, le chef de l'État a répété aujourd'hui que le scrutin avait été libre, équitable, transparent et crédible. Et il a accusé l'opposition d'être responsable des violences électorales. Arrivé au pouvoir en novembre dernier, après le coup de force contre l'ex-président Robert Mugabe en novembre, M. Mnangagwa a dû repousser son investiture initialement prévue dimanche en raison du recours de l'opposition qui conteste le résultat de l'élection du 30 juillet. Ce scrutin, le premier depuis la chute de Robert Mugabe, resté 37 ans au pouvoir, a été remporté dès le premier tour par Emmerson Mnangagwa avec 50,8% des voix devant le leader du mouvement pour le changement démocratique MDC. Nelson Chamisa, qui en a obtenu 44,3%. L'opposition parle de fraude massive et assure avoir remporté le scrutin. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher. Cap sur le Mali maintenant, où le dépouillement du scrutin présidentiel est en cours après le second tour de cette présidentielle dimanche. Un vote émaillé d'incidents, notamment le meurtre d'un agent électoral dans la région de Tombouctou par des hommes armés non identifiés et l'impossibilité pour un certain nombre d'électeurs d'accomplir leur devoir électoral. Mais le scrutin s'est généralement bien déroulé dans les grandes villes sans qu'il y ait eu affluence aux urnes. Le film des événements avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
Un second tour très attendu, mais qui n'a pas répondu aux attentes des observateurs et qui pensaient que les Maliens allaient se bousculer devant les urnes. Tel n'a pas été le cas, surtout à Bamako. Certains pensent que c'est à cause de la pluie, mais en réalité, même après, les Bamakois ne sont pas sortis pour aller glisser leur bulletin dans l'urne. De façon générale, ce scrutin a été émaillé d'incidents au centre et au nord du pays. Dans la localité de Nampala, des assaillants ont emporté 12 bulletins de vote avant de créer la panique chez les populations. À Niafunke, c'est un jeune président bureau de vote qui a été assassiné par des hommes en armes qui ont fait irruption dans un bureau de vote. Après ce forfait, les mêmes hommes armés ont brûlé le matériel électoral. C'est après cet incident que l'armée malienne est revenue sur place pour récupérer le corps du jeune avant de commencer des opérations de ratissage dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Pour plus de détails sur les incidents dans le cercle de Niafunke dans le nord du pays, rejoignons notre correspondant sur place, Sekou Abdoulkader Maïga.
À Arkodia, le président du bureau de vote 2 a été froidement assassiné à bout portant par des hommes armés qui ont fait irruption dans le bureau aux environs de 14h30. Selon plusieurs témoins, des hommes armés non encore identifiés ont d'abord tiré devant le bureau de vote, chassant ainsi les électeurs avant de tirer sur Ibrahima Alassane Cissé, président du bureau de vote. Les autres agents électeurs ont aussitôt pris la fuite dans la brousse. Plus tard dans la journée, aux environs de 17h, les présidents des bureaux de vote de Niodougou, Guati et Banyaga de la commune de Sobundu, très paniqués, nous signalant que des individus armés leur ont tiré dessus. Ceux de Guati ont été dépouillés de leurs biens, argent, téléphone et même des habits. Il faut signaler que le cercle de Niafunke est très vaste et s'étend jusqu'à la frontière mauritanienne et fait 359 bureaux de vote pour 84 473 électeurs. Sécuriser toute cette zone cherchant le mode asymétrique d'opération des bandits est une tâche difficile. Depuis Niafunke, Sekou Abdoulkader Maïga pour la VOA.
Les résultats officiels du scrutin, le deuxième depuis l'intervention française qui a mis en déroute les djihadistes dans le nord du pays en 2013, ne sont pas attendus avant le milieu de la semaine. Le vainqueur du duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé entrera en fonction début septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule les retards. À 73 ans, Ibrahim Boubacar Keïta est en position de force pour remporter un second mandat de 5 ans. Au premier tour, il avait rassemblé 41,70% des suffrages contre 17,78% pour Soumaïla Cissé, un ex-ministre des Finances de 68 ans, qui n'a pas réussi à unir l'opposition pendant l'entre-deux tours.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a reçu 25 candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre. La CENI publiera la liste définitive le 19 septembre. Les ténors de l'opposition, que sont Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, ont déposé leur dossier. Et le camp présidentiel sera représenté par Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, le parti du président. Le chef de l'État, Joseph Kabila, n'est pas candidat. Idriss Fall a recueilli la réaction de Richard Mouyege, gouverneur de la province du Lualaba.
Le chef de l'État Kabila a toujours répété qu'il respectera la Constitution. Les incrédules ont alimenté des spéculations. Ils ont extrapolé leur propre turpitude sur Kabila, qui lui, dès le départ, a toujours démontré qu'il était un homme de parole. Nous étions plutôt surpris par toutes ces spéculations qui venaient de partout au monde, tendant à l'obliger à déclarer en des termes auxquels il n'est pas très habitué. Kabila parle très rarement, il fait très rarement des discours, et comme il a dit lui-même, le silence est lourd, et on les brusque quand on a quelque chose à dire. Et chaque fois qu'il devait ouvrir sa bouche, il l'a répété, je respecterai la Constitution. Nous étions plutôt surpris et déçus par les chefs d'État africains qui se sont mis dans cette spéculation aussi, alors que la plupart d'entre eux ont fait justement ce qu'ils demandaient à Kabila de ne pas faire.
Kabila, 46 ans. De l'autre côté du fleuve, M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Paul Biya se représente, il est au pouvoir depuis 37 ans. Paul Kagame au Rwanda joue les prolongations. Et Yoweri Museveni, sans parler de M. Idriss Déby Itno. Pourquoi autant d'insistance sur Joseph Kabila?
C'est ce que nous ne comprenons pas non plus. Pourquoi autant d'insistance sur Kabila? Les autres font ce qu'ils veulent. Mais je vous dirais tout simplement, comme Kabila lui-même, au Congo, nous n'avons pas de leçons à donner à d'autres. Nous observons ce qui se passe. Nous nous rendons compte que c'est une injustice de s'attarder sur Kabila. Je crois que c'est une leçon pour les acteurs politiques qui, après avoir gaffé au pays, vont en exil avec de l'argent détourné pour corrompre les médias à l'Occident et créer des opinions négatives. La culture chez nous au PPRD, c'est d'éviter de donner des leçons aux autres. Nous nous concentrons sur la victoire électorale.
Est-ce que vous pensez que Emmanuel Ramazani Shadary a des chances de remporter l'élection si jamais elle a lieu le 23 décembre?
N'ayez pas de crainte ni de doute. Nous ferons tout pour que les élections aient lieu à cette date. Nous nous attelons déjà à préparer la victoire d'Emmanuel Shadary. Je ne sous-estime pas l'opposition, mais je crois que Kabila a beaucoup fait pour ce pays. N'oubliez pas que c'est grâce à Kabila que la démocratie s'est retrouvée sur les rails, avec les référendums en 2005, les élections en 2006, élections en 2011 et bientôt le troisième cycle. Je ne me sens pas très frustré par ces faiblesses. S'il y a des faiblesses, qu'on nous pardonne. Mais nous croyons dans l'avenir du Congo avec l'idéal kabiliste. Et le choix de Shadary permettra de soutenir cet idéal de la reconstruction et de la cohésion nationale.
Richard Mouyege, gouverneur de la province du Lualaba, dans le sud-est de la RDC. Actualité hors d'Afrique maintenant. En Turquie, la Banque centrale a annoncé ce lundi qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité financière alors que la livre turque est en chute libre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que cette chute libre résulte d'un complot politique contre son pays. Il a promis de chercher de nouveaux marchés et alliés alors que les relations sont au plus bas entre son pays et les États-Unis. Bagassi Koura.
Le but de l'opération est d'obtenir la reddition de la Turquie dans tous les domaines, de la finance à la politique, a dit Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que son pays ne va pas rester les bras croisés. Les États-Unis et la Turquie sont partenaires au sein de l'OTAN et le Pentagone a une base à İncirlik, centre des opérations contre le groupe État islamique. Mais la livre turque s'est effondrée suite à la décision du président Donald Trump de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Washington réclame la libération immédiate du pasteur américain Andrew Brunson, jugé en Turquie pour terrorisme et espionnage. Il a été placé fin juillet en résidence surveillée après un an et demi de détention. De son côté, la Turquie demande l'extradition de Fethullah Gülen, prédicateur établi sur le sol américain et soupçonné par Ankara d'être l'architecte du putsch manqué de juillet 2016.
Et pour terminer, les deux Corées se réuniront en septembre à Pyongyang pour un nouveau sommet. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'agence sud-coréenne Yonhap, alors que les deux camps ont engagé des discussions de haut niveau dans la zone démilitarisée. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.